Chers frères et sœurs et chers amis, nous commençons une toute nouvelle série, très importante également, et c'est une longue étude, car cela nous a été demandé beaucoup de gens et de chrétiens même ont parfois des idées pas tout à fait très correctes à certains sujets. Alors, on va essayer d'apprendre à mieux connaître tout ce qui concerne Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Évidemment, ceci va être une série plus ou moins longue, et je vous demanderai de noter soigneusement les citations bibliques assez nombreuses, car voyez-vous, il est important de s'en tenir rigoureusement aux Saintes Écritures, car il y en a toujours, pas toujours mal intentionnés, peut-être même, pense-t-il, bien intentionné, qui ne sont pas d'accord et qui réfutent carrément certains aspects de ces études. Et je l'accepte, parce que personne n'est parfait, et je sais une chose qui est certaine absolument, c'est que nous connaissons, et je parle surtout de moi, tellement peu sur tout ce qui concerne Dieu, car nous sommes très limités. Et j'espère que certains d'entre vous vont me croire que nous, les humains, sommes très limités, très restreints en beaucoup de choses. Donc, chers amis, on peut savoir énormément de choses sur Dieu sans connaître grand-chose de lui. Et cela, je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ne l'ont jamais vraiment compris. Il y a en nous quelque chose qui nous pousse à nous intéresser à la théologie, c'est, il est vrai, un sujet mystérieux et captivant qui constituait même au XVIIe siècle déjà un agréable passe-temps pour les gentilshommes. Nous aimons lire des livres de l'Église, nous étudions ses credos, nous prenons à nous retrouver dans les Écritures saintes, et puis comme d'autres apprécient l'intérêt que nous portons à ces choses, on nous demande de donner publiquement notre opinion sur telle ou telle question, de diriger des groupes d'études, de faire des conférences, d'écrire des articles et, de façon générale, d'assurer la responsabilité et le rôle d'enseignant et d'arbitre de l'orthodoxie à l'intérieur du cercle chrétien qui est le nôtre. Donc, nos amis, ils nous disent bien sûr tout le bien qu'ils pensent de nous, pas toujours, mais quand même, et de ce que nous faisons, et cela nous incite à entreprendre de nouvelles recherches sur la vérité divine, pour rester à la hauteur de ce que l'on attend de nous. Tout cela n'est pas toujours très facile. Néanmoins, connaître Dieu, d'une part, s'intéresser à la théologie, connaître beaucoup de choses sur Dieu, avoir sur les grands thèmes chrétiens une pensée juste et en bien parler d'autre part, sont deux choses très différentes. Il est possible de connaître autant de choses sur Dieu que Calvin lui-même. Il suffit pour cela d'étudier sérieusement ce que a écrit Calvin. Et tôt ou tard, on y arrive sans presque rien connaître vraiment de Dieu. Ce que, je vous le dis pour que ce soit pas mal compris, ce ne fut pas du tout le cas de Calvin, précisons bien cela. Mais on peut lire énormément de choses sur des grands hommes qui ont écrit, qui étaient reconnus mondialement, sans vraiment connaître l'essentiel. Parce que c'est une grâce qui est faite à tous les chrétiens qui demandent sérieusement dans la prière que l'Esprit Saint les inspire, nous inspire à mieux comprendre, car nous sommes tous, et moi le premier, très limités, parce que nous sommes, avouons-le, que des êtres humains assez restreints. Donc, chers amis, on peut connaître beaucoup de choses sur la piété sans toutefois connaître toutes choses concernant Dieu. Tout dépend des sermons que l'on entend, des livres que l'on lit et des gens que l'on fréquente. À notre époque, férue d'analyse et de technologie, les comptoirs regorgent de livres et les sermons abondent qui expliquent comment prier, comment témoigner, comment lire sa Bible, comment payer la dîme, comment être un jeune chrétien, comment être un vieux chrétien comme moi, comment être un chrétien heureux, comment se consacrer davantage, comment conduire les hommes à Jésus-Christ, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, comment parler en langue ou comment expliquer les manifestations pentecôtistes. Et plus généralement, comment bien connaître tout ce que un vrai croyant est censé de connaître d'après ses enseignements. Il ne manque pas non plus de biographies racontant les expériences des chrétiens d'autrefois, et nous les lisons avec beaucoup d'intérêt. On pourrait encore en dire long sur le sujet, mais ce qui précède suffit, et je crois à montrer qu'il est tout à fait possible d'apprendre de seconde main quantité de choses sur la façon de vivre le christianisme. Bien plus, pour peu que l'on soit doté d'une bonne dose de bon sens, il est souvent possible d'utiliser cet enseignement pour aider des chrétiens moins bien doués sous ce rapport et qui partagent dans leurs difficultés à reprendre pied et à ramener leurs problèmes à leur juste dimension, ce qui permettra par la même occasion d'acquérir une bonne réputation. Et pourtant, oui, pourtant il est possible malgré tout cela de ne rien connaître de Dieu, ou presque. Revenons-en donc à notre point de départ. La question n'est pas de savoir si nous sommes doués en théologie ou si nous avons une bonne approche, quelle présomption des problèmes de la vie chrétienne. Non, non, non. La question qu'il nous faut nous poser est la suivante. Pouvons-nous dire, en toute simplicité et honnêteté, que nous avons connu Dieu? Et le dire non pas parce que, en tant que chrétien, il convient que nous le disons, mais parce que c'est la quelque chose d'évident. Et pouvons-nous vraiment le dire? Et dire aussi que parce que nous avons connu Dieu, toutes les choses pénibles que nous avons vécues et toutes les choses agréables qui nous ont été refusées n'ont jamais eu pour nous, chrétiens, la moindre importance. Si réellement nous connaissons Dieu, c'est ce que nous dirons. Si nous ne pouvons pas le dire, reconnaissons alors que nous avons besoin de prendre davantage conscience de la différence qui existe entre connaître Dieu et connaître seulement quelque chose sur Dieu, ce qui n'est pas pareil. Lorsque quelqu'un connaît Dieu, avons-nous dit, eh bien, tout ce qu'il peut perdre, toutes les croix qu'il peut avoir à porter, cessent d'avoir de l'importance à ses yeux. Ce qu'il a acquis chasse ces choses de son esprit. Je répète, lorsque quelqu'un connaît Dieu, avons-nous dit, eh bien, tout ce qu'il peut perdre, toutes les croix qu'il peut avoir à porter, tout cela cesse d'avoir de l'importance à ses yeux. Ce qu'il a acquis chasse toutes ces choses de son esprit. Car la question maintenant est de savoir si la connaissance de Dieu produit d'autres effets chez l'homme, chez la femme, et si oui, lesquels? Différents passages de l'Écriture sainte apportent à ces questions des réponses variées, mais c'est peut-être le livre de Daniel qui nous donne la réponse la plus claire et la plus percutante, et nous la résumerons en quelques points. Notez premièrement Daniel chapitre 11. Premièrement, ceux qui connaissent Dieu manifestent pour lui un grand zèle. Je répète, ceux qui connaissent Dieu manifestent pour lui un grand zèle. Dans un des chapitres prophétiques de Daniel, nous lisons ceci. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Chapitre 11, verset 32. Une autre version traduit « Ceux qui connaissent leur Dieu tiendront ferme et passeront à l'action. » Ça concerne le zèle. Dans le contexte, cette affirmation précédée de la conjonction « mais » le « mais » est mis en opposition à l'activité du personnage méprisable, verset 21, qui suscite l'abomination du dévastateur et qui corrompt par des paroles agréables et flatteuses tous ceux qui ont trahi l'alliance de Dieu, verset 31 et 32. Ceci montre que l'action entreprise par ceux qui connaissent Dieu est en fait une réaction contre tout ce qui s'oppose à Dieu. Ceux qui connaissent Dieu ne peuvent rester inactifs tandis que leur Dieu est bafoué et discrédité. Ils ressentent vivement l'obligation de faire quelque chose. L'affront infligé à Dieu est un aiguillon qui les pousse à l'action, heureusement. Et c'est exactement ce que nous pouvons lire dans les chapitres consacrés aux exploits de Daniel et de ses trois amis. Ces hommes connaissait Dieu, et par conséquent, il se voyait forcé, en certaines occasions, de s'opposer de façon active aux exigences et aux dictats de l'irréligion et de la fausse religion. Daniel, tout particulièrement, apparut comme un homme incapable de rester indifférent dans une situation de ce genre. Il se sent obligé de la contester publiquement pour ne pas risquer une souillure rituelle en acceptant de manger la nourriture du palais. Il exigea un régime végétarien à la consternation du chef des eunuques. Daniel, chapitre 1, versets 8 à 16. Lorsque Darius interdit sous peine de mort l'exercice de la prière pendant un mois, Daniel ne se contenta pas, il ne s'est pas contenté de continuer à prier trois fois par jour, mais il l'a fait devant une fenêtre ouverte, en sorte que tout le monde pouvait voir ce qu'il faisait. Daniel chapitre 6, verset 10. On ne peut s'empêcher de penser alors à l'évêque Raïl se penchant en avant dans la stalle de la cathédrale Saint-Paul afin que tout le monde puisse voir qu'il ne se tournait pas vers l'Est pour le credo. Il ne faut pas se méprendre sur la signification de tels gestes. Daniel et l'évêque Raël, dans ce cas précis, n'était pas un homme hargneux et désagréable qui ne se complaisait que dans la rébellion et dans une farouche opposition à l'autorité. Non, non, non. Mais il connaissait Dieu tout simplement. Et ceux qui connaissent leur Dieu sont sensibles à ce qui peut mettre en péril directement la vérité et l'honneur de Dieu, plutôt que de laisser pourrir la situation. Ils préféreront toujours l'exposer au grand jour, cherchant par là à forcer un changement d'opinion, même s'il leur faut pour cela encourir quelques risques. Cela dit, ce zèle pour Dieu ne s'arrête pas à des gestes publics. Il ne commence d'ailleurs pas par là non plus. Ceux qui connaissent leur Dieu sont avant tout des hommes et des femmes de prière. Et c'est dans la prière que s'exprime d'abord leur zèle et leur ardeur pour la gloire de Dieu. Au chapitre 9 du livre de Daniel, nous voyons que le prophète a compris d'après les livres que le temps annoncé pour la captivité d'Israël arrivait à son terme et que la gravité du péché du peuple méritait le jugement de Dieu plutôt que sa miséricorde. Il s'est alors mis à rechercher Dieu, et cela par des prières, des supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, chapitre 9, verset 3, et à prier pour la restauration de Jérusalem avec une véhémence, avec une ardeur et une passion auxquelles nous sommes pour la plupart d'entre nous complètement étrangers. Pourtant, la véritable connaissance de Dieu fait naître invariablement un ardent désir de prier pour la cause de Dieu. Ce désir ne peut trouver d'exutoire et d'apaisement que dans une prière semblable à celle de Daniel. Et plus grande sera la connaissance, plus grande sera l'ardeur. Que ceci nous serve de test. Peut-être ne pouvons-nous pas protester publiquement par notre attitude contre l'impiété et l'apostasie. Peut-être sommes-nous physiquement limités par l'âge, ce qui est mon cas à 86 ans, ou par la maladie, ou encore autre chose. Mais nous pouvons tous lutter par la prière contre l'impiété et l'apostasie que nous voyons sans cesse autour de nous. Cependant, si nous manquons d'ardeur et de persévérance pour le faire, cela prouve que la connaissance que nous avons de notre Dieu est encore bien superficielle. N'ayons pas honte de le dire. Deuxièmement, ceux qui connaissent Dieu ont de lui une très haute opinion. Je répète, ceux qui connaissent Dieu ont de lui une très haute opinion. Il n'y aurait pas assez de place pour exprimer ici tout ce que le livre de Daniel nous apprend sur la sagesse, la puissance et la vérité du grand Dieu qui dirige l'histoire et manifeste sa souveraineté sur les individus ou les nations en les jugeant ou en leur faisant miséricorde selon son bon plaisir. Il nous suffira de dire que nulle part ailleurs, peut-être, la Bible ne nous offre une description aussi précise et aussi riche de la réalité complexe de la souveraineté de Dieu. Face à la puissance et à la splendeur de l'Empire babylonien qui avait absorbé la Palestine, et malgré la perspective de l'avènement futur de grands empires mondiaux écrasant Israël selon toute probabilité humaine, eh bien le livre de Daniel et son ensemble, dans son ensemble, eh bien c'est un rappel très émouvant du fait que le Dieu d'Israël est vraiment le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs, que le ciel est le maître, que la main de Dieu dirige vraiment à chaque instant l'histoire, et que l'histoire n'est en fait rien d'autre que son histoire, le développement du plan qu'il a conçu de toute éternité, et que le royaume qui sera finalement le grand vainqueur et celui de Dieu. Le très haut, ce très haut, vous savez qui c'est maintenant, il domine sur le règne des hommes. Et vous pouvez noter le chapitre 4, verset 17, ainsi que les versets 25 et 32. Tel est donc la grande vérité que Daniel enseignera à Nebuchadnezzar, on l'appelle aussi Nebuchodonosor, chapitre 2 et chapitre 4, et nous rappellera tout au sujet de Belshazzar, au chapitre 5, versets 18 à 23. Une vérité que a même vraiment, heureusement pour lui, a reconnu Nebuchadnezzar, chapitre 4, versets 34 à 37, et que Darius confessa, chapitre 6, versets 25 à 27. Les prières de Daniel, chapitre 2 et chapitre 9, ont trouvé leur source dans cette même vérité. Elle fut aussi à la base de la confiance manifestée par Daniel et par ses amis lorsqu'ils ont bravé les autorités. Lisez chapitre 1, versets 3 et 6. C'est enfin cette vérité qui forme la toile de fond de toutes les révélations que Dieu a faites à Daniel au chapitre 2. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Il sait, et il sait à l'avance, toutes choses, et sa prescience et prédétermination, vraiment, c'est une chose merveilleuse. Et c'est pourquoi il aura le dernier mot à la fois dans l'histoire du monde et dans la vie de chaque homme. Son royaume et sa justice triompheront à la fin. Et car ni les hommes ni les anges ne seront capables de s'opposer à lui. Telles étaient donc les pensées qui remplissaient l'esprit de Daniel lorsqu'il évoquait son Dieu. Ses prières en témoignent, ce sont toujours ses prières qui révèlent le mieux ce qu'un homme pense de Dieu. Oui, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Louons toujours Adonai El Shaddai, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à tous ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Chapitre 2, versets 20 à 22. Seigneur Dieu, grand et redoutable, oui, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Dieu fera toujours miséricorde à ceux à tous ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. À toi donc, Seigneur, est la justice, et c'est auprès du Seigneur, notre Dieu bien-aimé, que sont la miséricorde et le pardon. L'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Je répète, l'Éternel, notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Chapitre 9, verset 4, verset 7, verset 9 et le verset 14 du chapitre 9. Et c'est bien là, chers amis, ce que nous pensons de Dieu. Nos prières expriment-elles une telle conception de notre Dieu? Cette même conscience extraordinaire de sa sainte majesté, de ses perfections morales, de sa fidélité miséricordieuse, nous garde-t-elle dans l'humilité et la dépendance, dans la crainte et l'obéissance, comme c'était le cas pour Daniel? Que ce texte, lui aussi, nous aide à nous rendre compte du niveau de notre connaissance de Dieu. Troisièmement, ceux qui connaissent Dieu témoignent pour sa cause d'une grande hardiesse. Je répète, ceux qui connaissent Dieu témoignent pour sa cause, et cela avec une grande hardiesse, avec du zèle. Daniel et ses amis étaient des hommes qui ne courbaient pas l'échine, jamais. Ce qui n'était pas de la témérité de leur part, mais non, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient calculé la dépense et ils avaient mesuré le risque. Ils étaient parfaitement conscients de ce que leur attitude pouvait leur valoir à moins d'une intervention miraculeuse de Dieu, qui, d'ailleurs, s'est produit. Mais ces considérations les ont laissés totalement indifférents. Une fois convaincus que leur position était juste et que leur loyauté envers leur Dieu exigeait qu'ils l'adoptent, ils se lavaient les mains en souriant des conséquences. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, disaient même les apôtres, notez Actes, chapitre 5, verset 29. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Et c'est ce que disait saint Paul. C'était précisément ce que pensait notre ami Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ce que pensent tous ceux qui connaissent Dieu. Il est parfois terriblement difficile pour eux de savoir quelle est la bonne route à prendre, mais voyez-vous, une fois qu'ils l'ont découverte, ils s'y engagent hardiment, sans hésitation, et peu leur importe que d'autres, qui appartiennent pourtant aussi au peuple de Dieu, voient les choses différemment et ne les suivent pas. Shadrach, Meshach et Abednego avaient-ils été les seuls parmi les Juifs à refuser d'adorer la fameuse statue de Nebuchadnezzar, de Nebuchodonosor. D'après ce qu'ils dirent, rien ne suggère qu'ils aient eu connaissance d'autres Juifs dans le même cas, ni même qu'ils s'en soucièrent. Ils étaient totalement au clair sur ce qu'il leur fallait faire personnellement. Et cela leur a totalement suffi. Et ce texte nous permet à nouveau d'évaluer la qualité de notre connaissance de Dieu. Et quatrièmement, ceux qui connaissent Dieu trouvent en lui une pleine satisfaction. Je répète, ceux qui connaissent Dieu trouvent en lui une pleine satisfaction. Aucune paix n'égale la paix dont jouissent ceux qui ont l'assurance d'avoir connu Dieu et d'avoir été connus par lui. Car cette relation, elle leur assure la faveur de Dieu durant la vie, dans la mort et jusque dans l'éternité. C'est de cette paix que saint Paul parle au chapitre 5 de sa lettre aux Romains, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il en analyse plus précisément la nature au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes aussi enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui l'a justifié, il les a aussi glorifiés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Oui, qui nous séparera de l'amour de Christ? Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est donc cette paix que Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient. C'est elle qui leur permit d'accepter sereinement l'ultimatum de Nebuchadnezzar. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? La réponse qu'ils lui firent, elle est très connue. Notez chapitre 3, versets 16 à 18. Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils gardent leur calme, car notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Réponse courtoise, mais sans réplique. Ils connaissaient leur Dieu. Sinon, si la délivrance ne vient pas, eh bien sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, jamais. Aucune importance, aucune différence, vivants ou morts, ils sont heureux. Seigneur, je n'ai pas à me soucier de vivre ou de mourir. Ma part est de t'aimer et te servir, et cela, ta grâce me le permet. Si longue est ma vie, heureux je serai de t'obéir longtemps avec zèle. Si courte est ma vie, pourquoi m'attrister de prendre mon essor pour un jour éternel? La profondeur de notre joie est un autre critère qui nous permet de savoir si nous connaissons réellement Dieu. Chers amis, désirons-nous connaître Dieu comme Daniel le connaissait? Alors, reconnaissons d'abord que nous le connaissons bien peu et bien mal. Apprenons à nous examiner non pas d'après les connaissances que nous avons sur Dieu, ni d'après la façon dont nous prions et d'après ce qui se passe dans nos cœurs. Si l'on s'en tient à ces critères, je crains que nombre d'entre nous n'aient aucune idée de l'état de pauvreté dans lequel ils stagnent. Demandons au Seigneur de nous révéler notre état et mettons-nous ensuite à la recherche du Seigneur. Quand il était sur la terre, il invitait les hommes à se joindre à lui et c'est ainsi qu'il arrivait à le connaître, que les gens pouvaient mieux le connaître et en le connaissant, à connaître également son Père. L'Ancien Testament rapporte qu'en certaines occasions, Jésus-Christ, avant son incarnation, agit de la même façon, sous la forme parfois d'un ange de l'Éternel. Il s'approcha de certains hommes afin que ceux-ci en puissent mieux le connaître. Le livre de Daniel cite ce qui semble être deux exemples de ce genre de manifestation, car qui était le quatrième homme, celui qui ressemblait à un fils des dieux, chapitre 3, verset 25 de Daniel, et qui marchait avec les trois amis de Daniel dans la fournaise, et qui était l'ange envoyé par Dieu pour fermer la gueule des lions lorsque Daniel fut jeté dans leur fosse, chapitre 6, verset 22. De nos jours, le Seigneur Jésus n'est plus corporellement près de nous, mais spirituellement, rien n'a changé. Nous pouvons encore trouver et connaître Dieu en recherchant et en découvrant la présence de Christ. Ceux qui ont cherché le Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, car si nous le cherchons de tout notre cœur, eh bien, nous sommes assurés de le trouver. Cela est une promesse et ils peuvent attester face au monde qu'ils ont connu Dieu. Chers amis, cette première partie, ce premier volet de cette longue et importante étude aura été pour débuter très courte. C'est voulu pour que vous puissiez encore la méditer. Et je vous mets maintenant un ou deux chants. Il y a 50 ans de cela, quand j'avais fondé une mission sur cassette, évidemment ces chants, comme vous le savez, sont un peu usés. L'essentiel, c'est que vous puissiez entendre ou peut-être encore comprendre les paroles. Chers amis, à bientôt à nouveau pour la suite très importante de cette très importante série. Donc, à demain, Dieu voulant, que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir.
Amen.